pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
L'éducation populaire, pour moi, renvoie à la question du mouvement social et de l'émancipation. Je me sens partie prenante du mouvement social et je cherche l'émancipation, faire en sorte que chacun, chacune puisse participer. Pour moi, la démocratie, c'est l'égale capacité à influer les décisions. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ne devrait se retrouver dans la situation de subir. Il y a ça dans la démocratie. Et donc ça passe par l'émancipation, ça passe par avoir les infos, décrypter la situation, être sollicité ici ou là pour donner un point de vue. Et moi, une espèce de responsabilité de faire en sorte que cette émancipation, elle soit partagée. Voilà, parce que moi, l'éducation populaire m'a permis d'être ce que je suis. Quand je mets en place un parlement de circonscription, quand je fais ce que j'appelle pompeusement la tournée citoyenne et que je me mets dans la vie des gens, on m'enlèverait toute cette dimension-là, j'aurais l'impression d'être inutile.
Il s'appelle Charles Fournier. Long parcours dans le monde associatif et l'éducation populaire, élu deux fois député écologiste d'Indre-et-Loire, région centre. Rendez-vous avec Charles en seconde partie de cette émission, enregistrée à Tours, en ce 1er mai 2025. Mais avant cela, on va en première partie d'émission vous parler du danger qui plane sur tout le monde associatif du pays, la nuit du bien commun.
On s'est rendu compte que pas grand monde connaissait ce qu'était la nuit du bien commun. Et c'est ça, en fait, qui nous a fait réagir. On s'est dit, il faut absolument alerter sur ce truc.
On se heurte à une incompréhension du public. Quand on présente, on vient et on dit non aux nuits du bien commun, les gens nous regardent avec des yeux comme ça, en disant, bah non, mais le bien commun, c'est bien, quoi.
La nuit du bien commun, menace d'extrême droite de contrôle du monde associatif à l'échelle nationale. Alors de loin, comme ça, les nuits du bien commun ont l'air de traditionnels galas caritatifs de droite organisés partout en France. Mais des galas orchestrés par le milliardaire catho d'extrême droite ultra-conservatrice, l'inquiétant Pierre-Édouard Sterrin, architecte du projet Périclès, patriote enraciné, résistant, quelle blague, identitaire, chrétien, libéraux, européen, souverainiste, dont la méphitique nuit du bien commun n'est que l'un des nombreux leviers de stratégie de prise du pouvoir.
Les champs qui sont investis par la nuit du bien commun, c'est-à-dire les associations qui peuvent candidater, la santé, l'handicap, l'éducation, les publics vulnérables ou précaires, l'environnement aussi. Des champs qui sont massivement désinvestis par l'État. Où est le service public ?
Leur manière de fonctionner, elle est celle qui vient du monde de l'entreprise. Le marketing, sales management, tout ce qui pète la gueule des gens qui bossent dans les entreprises, et ben en fait, ils ont mis ça en place dans leur manière de gérer leur structure.
La nuit du bien commun cache donc une menace pour le monde associatif et à terme, un danger mortel pour ce qu'il nous reste de démocratie. La nuit du bien commun n'est que l'un des outils du projet Périclès, établi par Sterrin, projet qui inclut aussi écoles privées ultra-catho, de prétendues écoles de journalisme ou de personnel politique, le rachat de journaux, d'instituts de sondage ou la création de villages pour familles chrétiennes. Et donc, la nuit du bien commun, offensive pour prendre le contrôle de pans entiers du monde associatif français en infiltrant les associations à coups de pognon. Première nuit du bien commun 2025, Grand Théâtre de Tours, le 6 mai. Mais d'autres nuits du bien commun sont prévues ou ont déjà eu lieu un peu partout en France. Rouen, Lille, Bordeaux, Lyon, Toulouse, Marseille, Nantes, Rennes, Angers, on en oublie. Stratégie patiente et mortifère, ce qu'ont bien compris les fondateurices de Touche pas à mon asso, dont on reçoit aujourd'hui deux membres rencontrés le 1er mai 2025. Salut les amis, c'est JBD pour la voix off, non à la nuit du bien commun. Bonjour Céline.
Bonjour.
Bonjour Camille.
Bonjour.
Sterrin, le milliardaire Sterrin. On parle beaucoup de lui ces temps-ci. Et pourquoi ?
Pour le projet Périclès, révélé en juillet dernier par le journal L'Humanité. Et le projet Périclès, c'est l'acronyme de patriote enraciné, résistant, identitaire, libertarien, européen, souverainiste. On a oublié le C.
Chrétien.
Exactement. Et donc le projet Périclès, c'est un projet d'ampleur qui est à la fois idéologique, politique, culturel, et dont un des objectifs concrets, c'est la, conquête par le RN de 300 villes supplémentaires aux prochaines municipales et puis la victoire aux présidentielles aussi.
Parlons quand même de ce personnage-là, Sterrin. C'est quoi son prénom d'ailleurs ?
Pierre-Édouard. C'est un milliardaire qui a fait fortune avec les Smartbox, qui s'est exilé fiscal en Belgique et qui a aussi exilé ses sociétés en Irlande pour ne pas payer l'impôt.
Bon patriote, hein, quelqu'un qui aime son pays.
Et un bon libertarien hein, qui a clairement décidé de contourner l'État. Donc lui, il a décidé de consacrer toute sa fortune. Il a déshérité ses enfants hein, pour ça. Pour ce projet Périclès, c'est un projet d'ampleur. Il touche les médias, il a essayé de racheter Marianne, ça n'a pas fonctionné parce que la rédaction s'y est opposée. Il a essayé de racheter Valeurs Actuelles, ça n'a pas fonctionné non plus. Il a essayé de racheter Bayard, ça a échoué aussi. Il a fondé une école de journalisme qui s'appelle bizarrement l'École Libre de Journalisme. Il a fondé aussi une école de formation des futurs maires pour l'extrême droite. Il finance des influenceurs, il finance des vidéos, des gens qui font de l'humour sur des migrants notamment. Il investit le champ de l'éducation. Donc nous ici en région centre, visiblement Sterrin aime cette région puisque en Sologne, à Nouhans-le-Fuselier, il a racheté le domaine de Chalès. Il va y implanter normalement pour la rentrée prochaine l'Académie Saint-Louis, une école privée hors contrat, un établissement d'excellence réservé aux garçons pour des élèves a priori de lycée, mais l'idée c'est de bien entendu d'en faire aussi un collège, etc. Et c'est de l'éducation intégrale. Il prévoit de prendre en charge toute la dimension éducative du jeune, notamment l'éducation, la spiritualité, etc., etc.
Ça fait peur.
Bah oui, ça fait peur. Bah alors toujours en Sologne, hein, on peut aussi parler de la ville de Salbris, qui se trouve juste à côté de l'endroit où va être ouvert l'Académie Saint-Louis. Le maire de Salbris, Alexandre Avril, c'est un soutien de Sterrin. Il est pressenti comme un des potentiels candidats poulain de Sterrin pour les prochaines présidentielles. Donc il a fait de sa ville une sorte de terrain de jeu, de laboratoire pour toute cette clique. Et puis toujours en région centre, on peut citer le projet de Monasphère à l'île Bouchard il y a quelques années, qui prévoyait d'ouvrir un quartier de lotissement pour des familles chrétiennes.
Cette personne-là invoque la notion de bien commun.
Oui, effectivement, on peut se poser la question du bien de qui on parle. Bon, on est dans une tradition assez classique du gala caritatif de droite, hein, qui va effectivement supporter des causes contre lesquelles personne n'aura rien à dire, hein, des associations de malades, des associations qui œuvrent dans le cadre du handicap, les publics vulnérables, etc. Mais ce qui serait intéressant, c'est de savoir, dans le cadre de ces nuits du bien commun, quelles sont les associations qui ont candidaté et qui se sont fait refouler.
Il s'agit de lever des fonds, c'est ça ? C'est à l'américaine. Hein. C'est-à-dire quand on fait un gala de charité, puis il y a de généreux et généreuses donateurs et donatrices qui donnent des sous pour financer les... Ça s'appelle la nuit du bien commun. C'est censé avoir lieu au Grand Théâtre de Tours le 6 mai.
Nous, on s'est mobilisés notamment autour d'une pétition qui demandait le désengagement de la ville de Tours par rapport à l'accueil de l'événement au Grand Théâtre, donc structure municipale. Et en fait, la ville nous a expliqué que légalement, ils n'ont pas de possibilité de s'opposer à ça, parce qu'en fait, ça se fait non pas dans le cadre de la programmation officielle du Grand Théâtre, mais dans le cadre de la régie et donc des locations privées. Et légalement, ils n'ont pas de recours possible. En quoi ça consiste la nuit du bien commun ? Donc c'est un gala de levée de dons pour des associations locales. Des associations peuvent candidater d'abord en déposant un dossier. À Tours, cette année, a priori, il y a 120 associations qui ont candidaté, donc c'est quand même important. 60 de ces assos sont sélectionnées pour ce qu'ils appellent le grand oral. En quelques minutes, à peine 5 minutes, le représentant de l'association va venir défendre son projet devant un jury composé d'une vingtaine de personnes qui, a priori, sont plutôt des partenaires ou des soutiens de la Nuit du Bien Commun. Et à l'issue de ce grand oral, 10 associations ont été sélectionnées cette année et sont lauréates. À Tours, c'est la 3e année en fait que ça a lieu, la Nuit du Bien Commun. Visiblement, jusque-là, ça n'avait pas fait tant de bruit. Là, ça a fait du bruit parce que le projet Périclès, en fait, a été dévoilé, comme je le disais, l'été dernier. Et les liens avec ce terrain, en fait, est un des fondateurs de la Nuit du Bien Commun. La Nuit du Bien Commun, au sein du projet Périclès, c'est un axe fort. Les associations, c'est un corps intermédiaire. Par le biais d'une association, on touche directement un citoyen parce qu'il y a des adhérents, parce qu'il y a des bénévoles au sein des assos, des salariés, des usagers. Et donc, il y a un ruissellement qui se fait et qui, du coup, permet une présence de proximité hein, qui était visée par le projet Périclès. Et nous, du coup, le collectif Touche pas à mon asso. C'est un collectif qui s'est monté spontanément au moment de l'annonce des lauréats de la Nuit du Bien Commun. C'est un collectif citoyen. On a réagi parce qu'on était plusieurs adhérents à faire partie d'une association qui est lauréate cette année. Le bureau de l'association y est allé en toute connaissance de cause, malgré les contestations de plusieurs adhérents. Et c'est ça en fait qui nous a mobilisés. On a eu le sentiment de se faire récupérer notre asso pour des raisons idéologiques.
Donc en fait, cet événement au Grand Théâtre de Tours, là, c'est pour vraiment mettre la main sur une partie du monde associatif.
Clairement, c'est des sommes d'argent assez considérables en fait, hein, qui sont levées pour les associations. L'année dernière, à la Nuit du Bien Commun à Tours, c'était plus de 400 000 euros pour 9 associations lauréates. En comparaison avec les subventions publiques que touchent les assos, il n'y a pas photo. Hein. La Nuit du Bien Commun qui a eu lieu à l'Olympia en décembre dernier, ils ont levé plus d'un million de fonds. Ils arrosent largement les associations qu'ils choisissent. Et on peut tout à fait comprendre que des associations qui au départ étaient apolitiques, une fois qu'elles ont fait ce choix de participer et de s'associer à cet événement, bien entendu, elles vont pas contester la main qui les nourrit. Après, il y a d'autres points en fait qui ont généré de l'inquiétude pour nous. Les Nuits du Bien Commun, c'est produit par la société Obol. Ils accompagnent les associations lauréates en amont, mais aussi en aval de l'événement. Ils les coachent pour pouvoir se vendre le soir du gala, pour pouvoir faire monter un maximum les levées de dons. Ils les coachent aussi après en leur proposant tout un tas de services comme une petite entreprise. Donc c'est de la recherche de fonds, la RH, le droit social, tout un vocabulaire qui est clairement du vocabulaire du milieu entrepreneurial et dans lequel ne figure pas tout ce qui est de l'ordre de la vie adhérente, les statuts, la démocratie au sein des associations, etc., etc. Donc il y a ça qui nous inquiète. Et puis dans ce coaching qu'ils font en amont, ils font participer très activement les associations lauréates au phénomène de maillage, c'est-à-dire que la Nuit du Bien Commun, ça regroupe des gens du monde associatif, mais aussi des notables du milieu entrepreneurial, politique, local. Du coup, ils s'appuient vraiment activement sur les associations en leur demandant de recueillir au préalable des promesses de dons de la part de leurs futurs mécènes. Et ils communiquent sur les contreparties du mécénat, par exemple la possibilité qu'un mécène il puisse faire partie du CA de l'association, il puisse être présent en AG et avoir le droit de vote en AG. C'est un phénomène d'entrisme qui nous inquiète clairement. Après, dans les autres choses qui nous inquiètent aussi, c'est qu'on est aussi sur des grosses sommes d'argent qui sont donc défiscalisées, qui échappent à l'impôt. Depuis la création des Nuits du Bien Commun en 2017, l'événement se targue d'avoir levé plus de 20 millions de dons, donc c'est vraiment des sommes importantes. Une association, en fait, c'est très pratique comme cible, entre guillemets, parce que déjà, ça se crée très facilement. Les statuts peuvent être très libres. Une association n'est pas obligatoirement démocratique. Du coup, on peut faire passer sous forme de mécénat des formes d'argent importantes qui sont assez peu contrôlées. Un autre point aussi, c'est qu'on a constaté qu'il y avait beaucoup d'opacité autour de ce dispositif de la nuit du bien commun. Déjà, on constate qu'il y a a priori un effet de cooptation. Sur les premières associations qui ont été lauréates à Tours, quand on regarde qui sont les personnes qui sont dans les bureaux, présidents d'associations, etc., en fait, on remarque que dans certaines, il y a des personnes qui sont des représentants des élus politiques locaux de la droite conservatrice et qui donc, en fait, ont participé dans le cadre d'associations qu'ils représentaient à cette première tournée de la Nuit du bien commun. Ensuite, ces personnes, on les a retrouvées comme point d'appui pour aller démarcher d'autres associations dans le réseau associatif local. Et on les retrouve, une fois de plus, dans le jury qui sélectionne les associations qui seront lauréates. À noter quand même un fait important, c'est que les associations ne savent pas sur quels critères elles sont ou non sélectionnées. Donc il y a quand même beaucoup d'opacité dans tout ça et en réalité... C'est pas le cas de toutes les associations qui ont été lauréates et qui ont touché de l'argent par la Nuit du bien commun. Mais on peut noter quand même qu'un certain nombre d'entre elles ont soit des projets qui sont clairement des projets étiquetés cathos, soit ont des appuis dans le monde politique de droite ou d'ultra-droite ici. Et celles qui ne le sont pas, en fait, on pense que c'est la caution un peu qui permet de polisser la communication autour de l'événement, de la même manière que le fait que ça se passe au Grand Théâtre de Tours, ça participe de la communication autour de cet événement pour dire « Mais non, regardez, ça se passe au Grand Théâtre de Tours, il y a le Crédit Agricole qui participe, il y a le fonds de dotation du CHRU de Tours qui a été lauréat l'an dernier, donc vous voyez bien que en fait, il n'y a pas de loup, vous voyez le mal partout en fait. » Voilà.
Je me disais dans un premier temps, mais bon, quelle drôle d'idée de dépenser du pognon dans des assos. Enfin, c'est une drôle de manière de prendre le pouvoir. C'est peut-être pas si débile que ça comme stratégie que de vouloir mettre la main sur des pans entiers du monde associatif.
Oui, on l'a vu en interne dans les associations justement dont on faisait partie et qui ont décidé de participer, ça participe vraiment d'une banalisation et d'une normalisation des idées extrémistes sous prétexte d'un principe de neutralité politique qui est discutable. Je vais parler de l'association dont moi je faisais partie, qui est clairement une association qui au départ... et apolitique, qui rassemblait des personnes qui, sans doute, en dehors du cadre de cette association, peut-être ne se seraient pas rencontrées, de classes sociales très différentes, etc. À partir du moment où le bureau de cette association a fait passer en force la participation à la Nuit du bien commun, les adhérents qui étaient contre sont partis. La secrétaire de l'association a démissionné, c'est une des fondatrices de l'association. De fait, l'association, elle est plus apolitique. Son image est associée à la Nuit du bien commun, par ricochet, à la galaxie Stérin, etc. C'est un choix qui a été fait en toute connaissance de cause. Donc en fait, on s'inquiète de ce que ça génère de cet ordre-là. On peut s'inquiéter aussi dans les adhérents qui sont partis. Il y a des gens de minorité qui ne sont pas très appréciés de toute cette bande-là. Des minorités LGBT, etc. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il en est de la représentation de toutes ces personnes-là au sein de nos associations à partir du moment où, du coup, elles partent puisqu'elles ne s'en sentent plus ni représentées ni légitimes.
Qu'est-ce que vous avez envisagé pour le 6 mai en ce qui concerne le Grand Théâtre de Tours, où donc devrait avoir lieu cette prétendue nuit du bien commun?
Je vais le dire simplement, on n'a pas d'autre prétention que de gêner au maximum le bon déroulement de cet événement. Il y a eu un appel unitaire, alors moi je parle au nom du collectif Touche pas à mon asso, mais il y a plein de monde en fait qui est mobilisé. La section carrément anti-stérin, les soulèvements de la terre, solidaires, la CGT, LFI, enfin je vais en oublier plein d'autres, Extinction Rébellion, etc. Donc il y a du monde. Donc on a appelé un rassemblement ce soir-là. Là on vient d'apprendre qu'il serait autorisé par la préfecture, donc on est content. Qu'ils rencontrent de la résistance. L'idée c'était qu'ils ne puissent pas faire ça en toute impunité. Par contre, on s'est rassemblés avec un postulat de départ qui serait d'être tout à fait pacifiste, parce qu'on ne veut pas qu'on puisse nous reprocher quoi que ce soit, et puis que la lutte, ça peut être joyeux aussi. Voilà.
Camille ?
Dans la mobilisation qui est prévue pour le 6 mai, devant le Grand Théâtre, il y a aussi une volonté de visibilisation. Les Nuits du Bien Commun, vous en parlez autour de vous, personne ne connaît. Pierre-Edouard Sterrin, autant Bolloré, c'est assez clair en fait ce qu'il est en train de faire, il est bien visibilisé. Sterrin, aujourd'hui, ça reste quelqu'un qui a des plans sur le long terme. Il n'est pas pressé du tout pendant que nous, on se fait péter la gueule par l'État lui-même, où du coup, on est toujours dans l'urgence de la réponse militante. Bah, lui, il a le temps de préparer ses choses, il s'en fiche. Hein. Si ce n'est pas les prochaines élections, ce sera celle d'après. Si ce n'est pas le RN, ce sera quelqu'un d'autre. Hein. Il est avec le RN parce qu'aujourd'hui, c'est ceux qui sont les plus proches. Mais s'il peut trouver des personnes qui sont encore plus à droite et plus catho, ça l'arrange bien. Hein. Il y a un superbe article dans l'Express, hein. C'est très rare que je dise « lisez l'Express », mais vraiment un article dans l'Express qui est très important sur les liens politiques qu'il essaie de tisser. Tout ça, il le fait vraiment en sous-marin. Il le fait la Nuit du Bien Commun, elle a lieu à Tours, au Grand Théâtre le 6 mai. Il n'y a pas une affiche, il n'y a rien. Les gens à qui ils ont envie de parler seront au courant. S'ils peuvent amener quelques personnes supplémentaires, tant mieux. Par contre, ils n'ont pas envie d'être face au grand public, ils n'ont pas envie de se retrouver comme Bolloré, sous des grosses enquêtes, comme l'a pu faire récemment Attaque. S'ils peuvent prendre le temps de venir noyauter les milieux intermédiaires que sont les associations, ce sera toujours pour eux du positif. Donc on veut venir montrer qu'on est contre et qu'on n'est pas dupe du fait que ça n'a rien à voir avec le bien commun, ce qu'ils sont en train de réaliser. Tours, c'est le premier de la saison. Mais après, il y en a tout un paquet, en fait, hein, jusqu'au mois de septembre et encore après. Il y en aura à Lyon, il y en aura à Nantes, il y en aura à Rennes, il y en aura à Rouen, il y en aura à Angers, etc., etc. Il y en a un peu partout. Nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient au courant de ce que c'est, en fait.
Une offensive généralisée sur tout le territoire métropolitain contre le monde associatif.
Exactement. La discrétion, c'est leur manière de travailler. Maintenant, il faut les sortir de ça, quoi. Sterrin a fait un faux pas un peu à la con récemment parce qu'il a refusé de venir à une commission parlementaire. Du coup, il a été nommé un peu dans la presse nationale et c'est un des rares cas où il était nommé dans la presse nationale pour autre chose que justement les Nuits du Bien Commun. Enfin, en tout cas, en dehors des journaux militants, des journaux d'investigation. Aujourd'hui, on veut qu'on en parle, on veut que ceux qui seront dans les prochaines Nuits du Bien Commun, donc après le 6 mai, donc, ces gens-là soient au courant de ce qui se passe et que ces gens-là puissent se mobiliser encore plus que nous, on peut se mobiliser parce que nous, on se heurte à véritablement une incompréhension du public. Quand on présente, on vient et on dit non aux Nuits du Bien Commun, les gens nous regardent avec des yeux comme ça en disant bah non, mais le bien commun, c'est bien. C'est des gens qui bossent sur la com, c'est des gens qui bossent sur le discours. Il faut les mettre à jour, en fait. Il y a une raison ultra locale qui est celle de, ben voilà, nos associations, elles se font noyauter. Ils profitent de ces trucs-là pour faire du réseau vis-à-vis des entrepreneurs, mais pas uniquement, en fait, pour continuer à essayer d'apporter un petit peu de grain à moudre pour leur projet Périclès. Mais ils sont vraiment en train de chercher ce noyautage des assos, ce noyautage des milieux intermédiaires. Aujourd'hui, les milieux intermédiaires, c'est essentiellement les syndicats, les journalistes. Et les assos, c'est des milieux qui sont aujourd'hui pour beaucoup apolitiques. Elles ont des objets qui sont ultra spécifiques. Il y a des assos qui sont militantes. Et en fait, ce qu'ils sont en train de faire, c'est essayer de venir détricoter ce tissu associatif qui est un tissu apolitique pour les amener vers eux et les rendre dépendants. Enfin, c'est dur pour les assos aujourd'hui. C'est dur pour les assos, c'est dur pour la culture. Financièrement, tout le monde galère. Et soudainement, on vous dit, on vous file 20 000 balles, personne ne dira rien. Évidemment qu'il y a beaucoup d'associations qui, pour juste réussir à faire l'objet de l'association, si on leur propose 20 000 euros, elles vont dire carrément, quoi. Même si cet objet est à l'origine apolitique, en fait, on vient les rendre dépendants. On vient leur dire, dépendez pas des services publics. Venez par chez nous, nous, on a des sous, quoi. Si vous voulez continuer à faire, venez chez nous. On peut être mécène, mais il y aura des contreparties, quoi.
Est-ce qu'on peut vous joindre ou consulter un site internet Touche pas à mon asso?
On a une page sur Mastodon, Touche pas à mon asso, sur mastodon@piai, et une adresse mail qui est non-à-la-nuit-du-bien-commun@proton.me. L'endroit où on essaie de centraliser un petit peu les gens qui sont prêts à venir soutenir un appel unitaire qui aujourd'hui contient beaucoup de syndicats, commence à avoir des associations et des collectifs qui soutiennent le fait qu'on refuse l'organisation de ces nuits du bien commun. On est prêt à recevoir des signatures, des soutiens d'associations, des soutiens de collectifs. Ça nous permettra de les donner aux prochains. Plus on aura de choses à dire, plus on aura de personnes avec nous, plus ce sera facile pour les prochaines villes d'essayer de venir empêcher complètement l'organisation de ces nuits du bien commun qui vont arriver pendant tout l'été.
C'est un combat à long terme.
On cherche à recueillir en fait des témoignages d'associations qui ont été en lien avec la nuit du bien commun, que ce soit des associations qui ont été démarchées, qui ont candidaté, qui ont été lauréates, etc. Il y a un vrai travail d'investigation à mener sur quelque chose qui est tout à fait tentaculaire. On a parlé tout à l'heure du caractère qui nous paraît assez opaque de tout ça. Et plus on va avoir des retours sur comment ça se passe, mieux on va comprendre les leviers, les mécaniques qui sont à l'œuvre et puis les réseaux sur lesquels ça s'appuie localement aussi. L'objet aussi de notre mobilisation, c'était au départ d'alerter. On s'est rendu compte, et nous les premiers, que pas grand monde connaissait ce qu'était la nuit du bien commun. Et c'est ça en fait qui nous a fait réagir. On s'est dit, il faut absolument alerter sur ce truc. Et un des autres points sur lesquels on essaye d'agir, c'est de mobiliser les élus. Parce que les champs qui sont investis par la nuit du bien commun, c'est-à-dire les associations qui peuvent candidater, c'est la santé, l'handicap, l'éducation, les publics vulnérables ou précaires, il y a l'environnement aussi. C'est des champs qui sont massivement désinvestis par l'État. Où est le service public? Et donc on veut que les élus, dans le cadre de leurs fonctions, mais aussi en tant que représentants de partis, qui s'engagent en fait. Camille parlait tout à l'heure d'une attaque massive, puis c'est agressif aussi, hein. Ils vont les chercher les assauts. Hein. Nous, on fait le parallèle avec les attaques que subissent les médias, la presse en ce moment. Il y a eu les assises du journalisme à Tours, et donc on propose qu'il y ait des assises de l'associatif pour mettre à plat tout ça aussi. Et donc là, il faut qu'il y ait du relais au niveau national et institutionnel.
Ça me fait penser à un article que j'ai lu il n'y a pas très longtemps où des espèces de stérins d'il y a deux ou trois décennies ont convoqué les nazillons et skinheads des années 80 en leur disant « Maintenant, vous arrêtez de vous raser le crâne, vos petites ratonnades, là, c'est très amusant, mais vous arrêtez avec ça. Vous allez vous relaisser pousser les cheveux et faire des écoles de droit et infiltrer les parquets, les barreaux, les cabinets d'avocats. » Ces gens ont le temps d'établir des stratégies sur plusieurs décennies. Et là, ce qui s'est fait vis-à-vis du monde de la justice, du droit, est-ce que le parallèle vous semble pertinent?
Leur manière de fonctionner, elle est celle qui vient du monde de l'entreprise. Le marketing, sales management, tout ce qui pète la gueule des gens qui bossent dans les boîtes, dans les entreprises, et ben en fait, ils ont mis ça en place dans leur manière de gérer leur structure. Aujourd'hui, la SCAS, la section carrément anti-stérin, suite à tout ce qui a pu commencer à se passer à Tours, à de l'affichage, à de la communication, la SCAS a reçu un mail, sans lui poser de questions, hein, de Stanislas Biot de Lochner, qui est l'organisateur des Nuits du Bien Commun, qui disait, en substance, en fait, on n'a rien à voir avec ça. Nous, on a envie de faire du caritatif, nous, ce qu'on veut, c'est aider les gens, etc. Pierre-Édouard Stérin, je l'ai croisé deux fois, lui il a participé à l'organisation, mais maintenant ça n'a plus rien à voir, il n'est pas dedans quoi. C'est la manière de structurer et de venir compartimenter des choses, la même manière que le font les entreprises qui font de l'évasion fiscale, qui font de l'optimisation fiscale. On compartimente, les personnes qui organisent, ce ne sont pas les responsables, ils contrôlent ça de la même manière qu'ils contrôlent des grands groupes, avec une idée de mettre des personnes qui sont pas complètement indépendantes, mais qui vont avoir moyen de dire non, nous on n'est pas responsable, nous on le connaît pas ce terrain en fait, on n'est pas vraiment dedans. On sait très bien que d'un point de vue économique, c'est comme ça que ça fonctionne. On crée des entreprises, on crée des choses intermédiaires qui vont venir cacher ce qui se passe derrière. Ça, ils l'ont complètement mis en place. ils le maîtrisent complètement.
Et ils ont le temps.
Et ils ont un temps de cinglé. Ils sont vraiment pas pressés. Ils s'en fichent. Ce terrain, ce qu'il cherche, lui, c'est la sainteté. Hein. Il veut être sanctifié. Il n'a pas besoin d'avoir l'accord du pape. Ce qu'il cherche, c'est la sainteté. Donc la sainteté, c'est même après la mort, c'est pas grave, quoi. Si jamais il a réussi à faire ce qu'il voulait, il s'en fiche que ce soit maintenant.
Mais ce mec se pense en croisade.
Ah, ben, il est complètement en croisade, ouais. Contre le bien commun, finalement, c'est con à dire, mais ce qu'il veut, c'est que tout se passe comme lui, il a décidé de le faire. Il va donner tous les moyens qu'il a pour pouvoir le réaliser.
La manifestation anti-nuit du bien commun du 6 mai 2025 à Tours a réuni près de 400 personnes. Et c'est pas fini. Rendez-vous partout en France contre ces nuits du bien commun qui ne veulent aucun bien au bien commun. La suite de cette émission a elle aussi été enregistrée à Tours après la manif du 1er mai 2025. Hasard du reportage, rien à voir avec le sinistre Stérin, mais en fait tout le contraire avec le député écologiste Charles Fournier. Long parcours dans le monde associatif et l'éducation populaire, député écologiste d'Indre-et-Loire, région centre, largement réélu après la dissolution. Écolo d'hémicycle et de terrain, à qui des députés de droite ont notamment reproché d'avoir manifesté à Sainte-Soline. Alors on comprend bien qu'il y a des gens qui pensent que tous les politicards sont des pourris. C'est globalement pas faux d'ailleurs. Mais des politiques, il y en a aussi quelques intègres qui essaient de faire de leur mieux. C'est pas souvent que cette émission dit du bien d'un homme politique, comme on dit. Mais ce sera le cas aujourd'hui pour une conversation à bâton rompu.
Bonjour Charles.
Bonjour, ça va?
Je suis content de te voir, donc tu es l'un de nos députés d'Indre-et-Loire. Ouais. Donc j'évite de t'envoyer les pétitions Polynice, parce que...
Ça va, normalement, j'en ai beaucoup qui passent par moi, ils en signent beaucoup, mais bon, faut m'entretenir.
Alors je vais pas la jouer à ce que je ne suis pas, c'est-à-dire le journaliste machin, je suis tout à fait subjectif. Je fais partie des gens qui votent pour toi. Suite à la dissolution de l'an dernier, nous, en centre-ville de Tours, on va pas aller voter avec une pince à linge sur le nez, ouais, parce qu'on a tout à fait confiance dans notre plaisant député.
Ouais, et ça, c'est plaisant d'entendre ça, d'abord, ça fait du bien, parce que c'est un peu dans un moment où tout est difficile et où franchement les victoires sont extrêmement rares, voire quasi inexistantes. Je viens de traverser la rue nationale, je me suis fait arrêter 5 fois.
Par la police?
Non, par des gens bienveillants et qui voulaient me dire merci, qui me disent continuer. Voilà, moi ça c'est mon moteur, hein, franchement.
Et moi je le dis régulièrement aux gens, je dis bon alors écoutez ce gars-là, moi ça fait un demi-siècle que j'habite à Tours, je croise ce type, donc Charles Fournier, depuis 30 ou 40 ans. J'entends beaucoup de gens, d'élus, de politiques, etc., qui se targuent d'éducation populaire, de machin. Et là, je dis alors lui, il a le pédigré, il a tout ce qu'il faut, il travaillait dans une asso qui s'appelait STAJ, BAFA, BAFD et tout ça. Travail de terrain, l'éduc pop, il connaît, il en a fait, il a pratiqué, il en fait certainement toujours même à son poste de député. Et il se trouve, Charles, je ne sais pas comment tu te débrouilles, depuis le temps qu'on se connaît, j'ai jamais entendu parler de trucs de merde à ton sujet. Soit tu es très discret, soit tu t'évertues à essayer d'être un personnage exemplaire. C'est en toute confiance, toute subjectivité que je te tends ce magnétophone.
Non, mais merci pour ça. Je crois que je m'évertue quand même à être... irréprochable et avoir une certaine conception du rôle qui m'a été confié. Et l'éducation populaire est complètement la raison de cela. L'éducation populaire pour moi renvoie à la question du mouvement social et de l'émancipation. Donc dans tout ce que je fais, je me sens partie prenante du mouvement social et je cherche l'émancipation, faire en sorte que chacun, chacune puisse participer. Pour moi la démocratie c'est l'égale capacité à influer les décisions. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui ne devrait pas se retrouver dans la situation de subir. Il y a ça dans la démocratie. Et donc ça passe par l'émancipation, ça passe par avoir les infos, ça passe par décrypter la situation, ça passe par être sollicité ici ou là pour donner un point de vue. Et moi, je me sens comme une espèce de responsabilité de faire en sorte que cette émancipation elle soit partagée. Voilà, parce que moi, l'éducation populaire m'a permis d'être ce que je suis. Donc, quand je mets en place un parlement de circonscription, quand je fais ce que j'appelle pompeusement la tournée citoyenne et que je me mets dans la vie des gens, c'est tout ça qui est en jeu. Moi, on m'enlèverait toute cette dimension-là, j'aurais l'impression d'être inutile. Là, hier, quand je fais un colloque à l'Assemblée sur les droits de la nature et que je vois débarquer toute une série de gens qui ne viendraient pas à cet endroit-là, mais aussi des juristes, une espèce de mélange, et que tout le monde se prend à se dire que là, on est sur un sujet, la personnalité juridique de la loi, qui est enthousiasmant, bah, je me dis, là, je suis utile, quoi, dans un moment comme ça. Le soir, je vais en défense me battre contre cette absolue dégueulasserie qu'est la loi simplification. Je l'appelle comme ça parce que c'était peut-être pas l'intention initiale, mais à la fin, c'est ce que ça devient. Quand tu ouvres les vannes, l'ERN, la droite se saisissent de ça et proposent le pire. Toute la soirée, j'étais en défense. J'étais à empêcher des trucs, à contester, voilà. Puis après, peut-être pour être tout à fait complet sur ce que tu disais au début, je pense vraiment que je m'astreins à rien changer de moi. Évidemment, les trucs ont changé, mais dans mon mode de vie, dans mes façons d'être, dans ma relation avec les gens, dans ce que je dépense ou je dépense pas, ce que j'essaye de rester stable et de ne pas perdre le nord, quoi. Je pense que j'y arrive plutôt. Mais j'ai toujours besoin de refaire des bains de lutte, des bains d'endroits où je suis avec les gens, de simplicité pour jamais perdre sa vue.
Puis de toute façon, rassure-toi, si par extraordinaire il t'arrivait de déconner, on ne sait jamais, compte sur nous pour te défoncer.
Mais ce qui est normal.
Parce que ce bulletin glissé dans l'urne, c'est pas un chèque en blanc.
C'est normal, c'est normal. Le contraire poserait problème. Et d'ailleurs, je demande aux gens autour de moi d'avoir cette exigence avec moi. Ceux qui bossent avec moi, je leur dis, mais si vous trouvez que je suis sur un truc déconnant, ou un jour que je dis, ah, j'ai pas envie d'y aller, mais que vous pensez qu'il faut que j'y sois, vous mettez un coup de pied dans le cul pour que j'y aille. Voilà, j'ai aussi l'entourage qui va avec, quoi. Voilà, de gens qui me challengent, qui m'interrogent, et donc ça me permet de rester ça. Et puis enfin, je suis dans des collectifs, je suis avec plein de gens. Ça, ça te protège. Je me sens représentant au sens de, j'ai l'impression que quand je cause, je raconte l'histoire de gens. Voilà, c'est pas mon histoire à moi, c'est une histoire de gens. Après, j'y mets ma touche, mais c'est quand même l'histoire de tas de gens avec qui je fais des choses, quoi. Et je sais d'où je viens. Moi, tu sais, quand je vois ici des forces politiques encore plus à gauche que la mienne me dire, bon, bah, ton parti, on l'aime pas, mais toi, ta manière de faire, on apprécie. Parce que j'ai l'impression qu'on est dans un moment tellement terrible qu'il y a quand même des jonctions à réussir, même si elles sont juste pour accéder aux responsabilités, mais il faut le faire. Parce que sinon, on va continuer de s'enfoncer, même si tout ça se passe par le haut, et assez peu par le bas. La droitisation dans notre pays, elle se fait par le haut. On pourrait laisser à penser qu'on a une société qui serait devenue une société fasciste, une société intolérante. En vrai, pas tant que ça. Toutes les études montrent, il y a un mec qui a écrit un bouquin là-dessus qui s'appelle Vincent Tibéri, il te montre qu'en étudiant tous les sondages d'opinion depuis des décennies, qu'en fait, on continue de progresser, d'être dans une société progressiste, okay. Par le bas, par les gens. Mais qu'il y a un discours par le haut qui s'installe et qui, évidemment, a un impact sur l'opinion des gens. C'est rigolo, il y a une étude qui a été faite il n'y a pas longtemps, un réseau des intercommunalités de France. La manière dont ils perçoivent l'opinion de leurs habitants sur certains sujets écolos, par exemple les ZFE. Les présidents de ces intercos ont l'impression que leurs habitants rejettent ça. Et en fait, il y a un décalage entre ce que eux pensent et perçoivent de leurs habitants, parce que ceux qui viennent les voir, c'est ceux qui sont pas contents. Et en vrai, la population ne pense pas ce que eux pensent. Ça dit quand même quelque chose, c'est-à-dire qu'on est tous dans des silos. Moi, hier, je leur ai dit dans l'hémicycle, depuis le début de la soirée, vous dites les Français attendent ceci, les Français attendent cela, mais du coup, si les Français attendent ceci, attendent cela, et ceci, cela, c'est ce que vous défendez vous, pourquoi vous avez peur qu'il y ait des débats publics? Pourquoi vous refusez, vous voulez supprimer la Commission nationale du débat public? S'ils pensent comme vous, il ne faut pas s'inquiéter du débat. C'est peut-être parce qu'au fond, vous n'êtes pas certains qu'ils pensent comme vous. Voilà, on est un peu enfermés là-dedans. Et moi, je ne sais pas ce que les Français, je ne sais pas dire. Je les rencontre partout où je vais, je vois bien. Je pense que c'est très instrumentalisé. On alimente, s'il n'y a pas ça, et ben notre société continue de progresser. Voilà. Et donc moi, je m'appuie là-dessus pour me dire qu'il y a ça. Par contre, message à la gauche dans son ensemble, c'est que j'étais avec un syndicat à Rennes, là, parce que je fais un tour de France sur l'industrie, et ce syndicat, qui est pourtant pas un syndicat le plus à gauche, me dit, on a de plus en plus d'adhérents qui basculent à Rennes. Et ils sont inquiets. Ils donnent plusieurs raisons, ils disent, bah, par exemple, là, vous voyez, ST Microélectronique, là, qui est en train de supprimer des emplois ici à Tours, départs volontaires qui disent, mais quand tu dis 400 départs volontaires, ça fait beaucoup de volontaires qui doivent s'auto-désigner, donc à la fin, c'est plus des volontaires, il faut quand même le dire. Si c'est bien le chiffre qu'on va avoir. Et en fait, il y a une chaîne de production qui est ici à Tours, de semi-conducteurs gallium, qui est le truc d'avenir. Ben ça, c'est cette ligne de production qui est enlevée d'ici et qui est envoyée en Italie. Parce que le patron de ST, il est italien. Et que Meloni, elle a dit, moi je vous coupe tout, plus un centime, plus rien, si vous rapatriez pas des activités chez moi. Le salarié, il se dit quoi? Il se dit, elle tape du poing sur la table, ça marche. Nous, on a ici un ministre de l'Industrie qui est le ministre du petit arrangement et de je dis rien et j'accompagne le mouvement. Bah voilà, les gens, ils se disent, en fait, ils servent à rien, tous ces politiques. Et donc, du coup, il y a un vrai danger là-dessus. Et il me disait, ce que vous faites, c'est super, votre Tour de France. Voilà, mais ça, tout le monde devrait le faire tout le temps. Où est-ce qu'on est aux endroits où vivent les gens pour parler avec les gens? Et pas pour leur dire, j'ai raison, mais pour leur dire, ouais, ok, c'est que votre histoire. Ben voilà, moi, voilà la manière dont je la lis. Un mouvement, c'est une fabrication. Voilà, et cette fabrication, elle passe par le fait qu'on se parle. Et pas qu'on parle des gens. Et que je trouve que des fois, à gauche, on parle des gens, mais on parle pas assez avec les gens. Voilà. Au lieu de s'interpeller par voie de presse, on devrait d'abord, un, se donner un rendez-vous pour arrêter de s'engueuler par voie de presse. Et deux, comment on va voir les gens, là? On retourne voir les gens. Le programme du NFF, c'était un catalogue de mesures, ça raconte pas une histoire. D'ailleurs, si ça avait suffisamment raconté une histoire, on aurait gagné encore plus. Ce n'est pas le cas. Donc la question, c'est comment on donne envie, pas à 25% des gens, comment on donne envie à 50% pour pouvoir gagner. Et on devrait avoir une stratégie commune de reconquête du monde ouvrier, du monde salarié, une intersectionnalité des luttes. Parce qu'il ne faut pas opposer l'une avec l'autre. Quoi. Voilà, ces luttes-là, elles racontent la même histoire, en fait. Voilà. Voilà, et moi, je suis là partout où j'ai l'impression que je peux, très très modestement, parce qu'il faut être très modeste, un 577e ici à un endroit, sur un bout d'un territoire. Mais partout, je peux faire des jonctions et montrer que c'est les mêmes sujets, que c'est les rapports de domination sont les mêmes, que l'enjeu d'émancipation est encore à cet endroit-là, que moi, je n'oppose pas le migrant qui ne sait pas où dormir parce qu'on n'est pas foutu d'organiser l'accueil de notre pays et l'ouvrier qui, dans son entreprise, se préoccupe de l'avenir de son outil de travail. Voilà, c'est le même combat. Par contre, les deux ne savent pas forcément hein, ils sont dans le même... Donc, il faut bien des gens pour organiser ça. Et là, on a encore un petit peu de chemin pour que tout ça converge, quoi. Voilà.
Un peu l'appréhension en tendant le micro, parce que je pense qu'on pourrait ouvrir 200 portes en même temps. D'ailleurs, je vais en ouvrir une tout à fait au hasard. J'ai assisté à ton meeting avant l'élection, après la dissolution, et j'étais assez agréablement surpris que tu te mettes à parler des poils téflon et du téfal. Ouais. Et du coup, que tu mentionnes que tu es probablement l'un des députés les plus pollués, en tout cas capillairement. Et en fait, je sais pas, parler des gens, parler de leur quotidien, c'est aussi de parler de dans quoi ils font cuire leur bouffe, en fait. Et donc voilà comment un candidat à la députée se met à parler des dangers du téflon.
Ouais, mais oui.
En plein meeting électoral. Et de loin, comme ça, on pourrait se dire, mais le mec est cinglé. Pas du tout, en fait. Ça fait partie de ton boulot de dire, attention, quand vous faites cuire votre nourriture n'importe comment, vous risquez de vous empoisonner.
Ouais, ça fait partie de mon taf. Sur ce sujet-là, il y a un autre taf, c'est qu'il y a des gens qui fabriquent ces poils.
Voilà.
Et les gens qui fabriquent ces poils, d'abord, c'est les premiers exposés. Mais deux, ils ont le sentiment de perdre du sens dans leur boulot. Parce qu'ils entendent ça, que leurs poils, elles vont peut-être empoisonner les gens. Eh bien, c'est dur d'aller au boulot en portant ça. Et donc, pendant longtemps, et les écolos, c'était pas les seuls, mais nous, on a une responsabilité là-dedans, on s'est un peu adressé aux gens en disant, c'est pas bien ce que vous faites, mais sans être avec eux pour dire, alors on fait quoi? Et moi, maintenant, je mets une astreinte. Quand je vais m'exprimer sur des sujets, j'essaye, j'y arrive pas toujours, d'abord d'avoir eu l'échange avec celles et ceux qui sont concernés. Et je peux te dire que je suis beaucoup plus efficace pour ça. Parce que j'ai entendu les gens. Ce midi, là on est le 1er mai, j'ai passé une heure avec 30 salariés de ST Microélectronique. Je les ai écoutés. Ça fait un moment moi, que je suis sur ce dossier. Avant que ça sorte, j'ai écrit un courrier au président du conseil de surveillance qui m'a fait une réponse que j'ai mise sur les réseaux sociaux, d'ailleurs pour montrer quand même le foutage de gueule, où je dis, on entend dire qu'il va y avoir des suppressions d'emplois. Vous dites quoi? Réponse, mais non, pas du tout, c'est des bruits de chiottes dans les médias. Voilà. Et puis paf, là, 2800 emplois Europe, 1000 en France. Et on ne sait pas encore combien entre Tours et Grenoble, mais probablement 400 ici, 600 à Grenoble, peut-être 800, 200, peut-être on en sait rien. Voilà. Moi, mon taf, c'est aussi ça.
Rappelons quand même que, comme on l'a vu dans une précédente émission, pour fabriquer ces composants, ST Microelectronics pollue d'énormes quantités d'eau et est dénoncé et combattu par des collectifs écologistes comme Stop Micro. Alors j'ai bêtement oublié de rebondir là-dessus pendant ma conversation avec Charles Fournier, qui le sait bien. Mais en gros, l'équation serait que, sans perdre d'emploi, les entreprises ne détruisent pas, ne polluent pas, mais produisent intelligemment et respectueusement. Vaste programme, la compatibilité de l'écologie avec le capitalisme relève de la quadrature du cercle. C'est un euphémisme.
la question des polluants éternels, donc les PFAS, hein, le téflon et tout ce qui a envahi nos vies, parce qu'il y en a partout. On parle d'une nouvelle limite planétaire.
Rappelez-nous quand même cette histoire-là. Sur 17 députés écologistes, il y a une poignée d'années, vous avez fait des tests capillaires.
Voilà, exactement. Alors il y a 2 ans de ça, on a fait un test pour dénoncer un peu et montrer, faire une alerte en fait. Et sur l'ensemble des députés, j'étais le 2e à en avoir le plus dans les cheveux. 10 fois plus que le 3e. Voilà. Et la première, on avait beaucoup plus que moi encore. Elle est dans la vallée de la chimie à Lyon. D'abord, ces polluants éternels, il faut expliquer peut-être ce que c'est, mais c'est une liaison de carbone et de fluor, en gros, en chimie. C'est une liaison quasi indestructible qui résiste à la chaleur, à la flotte, au choc. Donc, c'est hyper utile dans tout. Il y en a dans tout. T'en as dans le maquillage, t'en as dans les vêtements. Le Gore-Tex, c'est magique, hein, le vêtement, l'eau elle coule dessus. Bah ouais. Le cornet de frites, là. Les emballages alimentaires. Dans ton cornet de frites, normalement, où t'as un papier autour, quand tu mets de la graisse ou de l'eau sur un papier, normalement, il s'effondre. Bah lui, il s'effondre pas, il reste tout droit là. Bah, il reste tout droit parce qu'il y a les PFAS dedans. Et donc, t'en as dans certains médicaments, t'en as dans des vêtements de sécurité, dans plein d'endroits. Il y a des endroits, honnêtement, aujourd'hui, on ne sait pas faire autrement. Mais il y a des tas d'endroits où on sait faire autrement. Voilà. Et donc, cet envahissement par des polluants éternels.
Attends, on est envahi par des sifflets là, attends.
Ouais, qu'est-ce qui se passe ?
On va laisser passer. C'est une manif d'enfants.
Que fait la police ?
Voilà. Comment on forme des générations d'éco-terroristes ?
Hein ?
Ils sont même pas, ils sont en maternelle.
Ouais, c'est ça. Ouais, c'est
terrifiant.
Primaire. Ouais. Et donc du coup, ils ont 2 gros vilains défauts parce que je t'ai donné les qualités, ça résiste à la chaleur, nan, nan, mais ils ont 2 vilains défauts. Le premier, c'est que ils sont, on dit éternels. C'est pas totalement éternel, mais ils sont très persistants. En moyenne, pendant 40 ans, ils bougent pas du tout. Et puis à partir de 40 ans, ils se dégradent un tout petit peu, mais tu peux rajouter des décennies derrière, il y a toujours une trace. Quoi. Et 2e défaut, ils se déplacent partout, très vite, et facilement. Donc tu en as dans la flotte, tu en as dans l'air, tu en as à plein d'endroits, donc du coup, il y en a vraiment partout.
Et en fait, c'est pas que tu as mangé trop de frites en te maquillant trop.
Non, c'est sans doute de la flotte, c'est peut-être l'air, c'est peut-être dans la bouffe, il y en a dans la bouffe et tout. Et le premier usage, c'est quand même intéressant de le dire, le premier usage, première fois où c'est fabriqué, c'est pour la fabrication de la bombe H. La bombe atomique qui a été balancée sur... Le premier usage, la création du PFAS, c'est aux États-Unis. L'entreprise qui s'appelle DuPont, qui s'appelait DuPont, un chimiste, qui a créé ça. Et donc, c'est connu depuis cette époque-là. Et les premiers travaux pour identifier la dangerosité datent de la fin du siècle dernier. Robert Bilote, un avocat, a monté un travail absolument dingue, alors qu'il bossait pour la chimie. Et le mec... par l'intermédiaire de sa grand-mère. Comme ça, c'est pourquoi les relations de proche à proche sont hyper importantes. Sa grand-mère, elle lui a dit « Viens voir les vaches de mon voisin. Elles crèvent toutes les unes derrière les autres. Il a sa ferme à côté de chez Dupont. Il y a un problème avec la flotte. » Et donc au début, il a résisté. Et puis d'un coup, il s'est fait embarquer et il est devenu l'avocat. Et on a travaillé avec lui, nous. Hein. Il est toujours vivant. Et il a fait la plus grande étude épidémiologique qui ait jamais eu lieu dans le monde. 67 000 personnes ont été testées. 7 ans pour que les résultats sortent, des procès dans tous les sens. Résultat, démonstration, il y en a partout. Et 2 des polluants éternels, 2, les majeurs utilisés à l'époque, ont été interdits aux États-Unis. Pas chez nous. Longtemps après, chez nous. 2009, le premier qui est interdit. Tu te rends compte ? Fin des années 90, 2009 chez nous. Entre-temps, les industriels en ont fabriqué plein. On dit qu'il y en aura entre 5 et 15 000 différents. En gros, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, il faut interdire toute la famille. D'ailleurs, on a réussi partiellement à interdire toute la famille. Et donc, ces polluants éternels, tu les trouves en rejet dans la nature, donc la nature en a plein, donc c'est difficile de redire quelle est l'origine, mais tu peux formuler des hypothèses. Il y en a forcément dans nos déchets, puisqu'il y en a dans tout. Dans le petit sac plastique du mouchoir à papier, dans ton cornet de frites, dans ta poêle que tu jettes. Une des sources, c'est les endroits de stockage des déchets. Voilà. Ça ne disparaît pas forcément dans les incinérateurs, parce que la température n'est pas toujours élevée, donc tu peux en retrouver dans l'air. Tu as eu ici, tu te rappelleras de ça, comme moi, je pense, il y a plus de 30 ans, 35 ans même maintenant, je crois. L'eau potable a été coupée pendant 8 jours
oui,
à Tours.
Absolument,
ouais, voilà.
Protex.
Exactement. Ouzouer de Touraine.
Ah, oui.
On en utilise beaucoup dans les mousses à incendie. Dès que tu as un incendie, tu en balances dans l'environnement. Et donc, du coup, il y avait eu un gigantesque incendie. Et ils fabriquaient quoi là-bas ? Ils fabriquaient des produits avec des PFAS. Ils en utilisaient dans les process. Donc, il est possible que la pollution date de cette époque-là. Parce que c'était il y a 35 ans. Ça ne bouge pas. C'est une des hypothèses. Hein. Moi, de toute façon, je ne saurais pas. Aujourd'hui, ST microélectronique, on utilise. Je peux dire dans quel process il y en a. On peut aller regarder du coup, en testant en amont, en aval d'une usine, l'eau qui rentre, l'eau qui sort. Alors, des fois, il la recycle, donc c'est plus compliqué, mais d'identifier des sources. Ça, faudrait s'en donner les moyens. Et jusqu'à maintenant, personne s'en donnait les moyens. Il n'y avait pas de tests. Là, maintenant, les tests seront obligatoires à partir du 1er janvier 2026, grâce à nous. on n'a rien lâché. On a réussi à faire voter une loi en plusieurs étapes. Ça a été une baston. Malheureusement, les ustensiles de cuisine ont été enlevés de la loi par les lobbies, le lobby de la poêle à frire. Voilà, et moi, cette bagarre, je la fais aussi avec les salariés, parce que c'est eux que ça concerne. Le patron de Seb, parce que Tefal, c'est Seb, il a dit à ses salariés, oh là là, si on arrête le Teflon, là, c'est moi, je supprime 2000 emplois. Alors qu'ils savent faire des poêles sans, ils ont des chaînes de production sans. Mais il dit, moi, je veux rentabiliser cette chaîne de production, je veux aller jusqu'au bout. C'est trop un bon business. Et c'est vrai que, à tous ceux qui n'ont pas de poêle avec du Teflon, mais qui ont donc de la céramique, de l'inox, de l'acier, de la fonte, un peu plus de nettoyage, hein. Voilà, hein, c'est pas le truc, tu passes une éponge, hop, tout ça, c'est absolument merveilleux, voilà. Ouais, c'est vrai. Bon, après, est-ce que nos vies vont être en péril ?
J'étais resté sur les vaches du voisin qu'on a retrouvé claquées à cause de la flotte. Donc sur nous, évidemment, tout ça ne nous fait pas du bien.
Ah bah non, c'est très très mauvais pour notre santé. Ça, c'est largement établi. Cancer, perte de fertilité, les épidémies d'obésité, c'est un perturbateur endocrinien. Voilà. Donc on retrouve tout ce qu'on retrouve d'ordinaire. T'en as sans doute des plus ou moins dangereux, mais en vrai, il faut interdire la famille. Gros dossier, gros sujet. Et c'est une bagarre. Et moi, je fais ça en même temps que je travaille sur l'industrie. Tu vois, c'est pas contradictoire. C'est-à-dire que moi, je veux une industrie qui répare. Une industrie qui protège ses salariés. Une industrie avec des conquêtes sociales. Mais je veux qu'on produise. Je veux pas produire de manière délirante. Je veux qu'on produise ce dont on a besoin. Voilà. Mais il faut faire ce boulot. Et il est pas assez fait. Il faut qu'on ait un propos intelligible sur ça veut dire quoi produire aujourd'hui. Ça veut dire une économie qui n'est plus basée sur l'offre, mais qui est basée sur les besoins. A-t-on besoin encore de plastique aujourd'hui quand on sait que c'est un produit pétrolier qu'il faut sortir du pétrole? Est-ce qu'on a besoin du plastique qui a réenvahi nos vies de manière complètement dingue? Non. Donc, on doit pouvoir faire sans. Est-ce qu'on a besoin de la fast fashion, de la mode jetable, du vêtement acheté? Non. Est-ce qu'on a besoin de semi-conducteurs? Oui, mais à quel niveau? Des data centers pour aller télécharger des films en 30 secondes partout, c'est une folie. Donc, à un moment donné, il faut bien mesurer ce qui va être soutenable et ce qui ne l'est pas. Mais par contre, il faut faire ce job. Si on le fait pas, il y a deux histoires qui vont se nourrir. Ceux qui disent l'écologie, ça commence à bien faire. Le RN, la droite, le centre, d'ailleurs, ensemble, hein, qui t'expliquent que rien ne doit contraindre l'économie. Voilà. T'as soit cette histoire-là, soit la perte de confiance dans l'avenir chez les gens, et donc du repli sur soi, et donc ça finit éventuellement dans la même histoire. Et donc, du coup, il faut qu'on ait des doctrines claires là-dessus, et ce boulot, il n'est pas suffisamment fait.
Une industrie qui fabriquerait des produits qui tuent pas les gens, ouais, mais les patrons pourraient faire grave de pognon
mais
avec
bien
ça.
Sûr, mais c'est absolument pas contradictoire.
Déjà, les consommateurs meurent pas, donc ils continuent à acheter.
Ouais, ça c'est pas mal, hein. Et puis, autre élément là, sur les PFAS, je reprends le même exemple, va falloir dépolluer. Il y a un business de fou à faire sur la dépollution. Nos stations d'épuration telles qu'elles fonctionnent aujourd'hui, ça marche pas, ça suffit pas, le charbon, ça suffit pas. Il y a des techniques, pas tout à fait tout au point. Maintenant que ça va être obligatoire de déceler, il va falloir avoir des réponses techniques. Et ça, ce serait une économie qui répare, parce qu'elle se préoccuperait de dire il faut dépolluer notre environnement. Il y a mille choses à faire. C'est pas vrai que c'est ça ou rien, quoi. C'est faux. On aura d'autres formes de besoins dans les mobilités pour fabriquer des trains, des bus, des tout ce que tu veux, des voitures plus petites. Moi, je dis pas plus de voitures, mais là, les constructeurs automobiles en France ne fabriquent que les véhicules à très haute valeur ajoutée en France. Les voitures les plus achetées en France ne sont pas fabriquées en France. Là, j'étais à Stellantis à Rennes. Ils sortent leur nouveau modèle, c'est un SUV, je sais pas quoi là.
Évidemment.
Voilà. D'abord, est-ce que ça va marcher ce nouveau modèle? S'il marche pas, Rennes, fini. Parce qu'ils ont une seule production là-bas, ce qui est débile. Il en faudrait plusieurs. Mais le truc, c'est que je leur dis, mais en fait, la Dacia, qui est la voiture que vous produisiez le plus, pourquoi vous la produisez pas ici? Je connais la réponse, hein. Voilà. C'est optimisation, volume, voilà. Mais si on veut changer la donne, c'est ça aussi qu'il faut réfléchir. C'est des plus petits véhicules dans un territoire, plutôt qu'avoir qu'une chaîne de production, t'en as plusieurs. Tu changes les usages, tu permets l'intermodalité. Ma voiture, je m'en sers quand j'en ai besoin. Je peux mettre mon vélo dans le bus. Il y a mille choses à faire qui créent de l'activité et de la valeur, mais pas de la valeur qui s'échappe des territoires, de la valeur qui est réinvestie, qu'on partage, parce que c'est quand même ça le sujet, quoi. Ah.
Pour clore sur les PFAS, je pensais au corps des pompiers. Tu disais neige carbonique. Ce serait bien quand il y aura des incendies ou des urgences de ce genre-là qu'on continue à avoir des pompiers. Or, c'est un corps de métier qui est complètement pollué, intoxiqué.
Ouais. Totalement. Et on a d'ailleurs fait, avec mon mouvement politique et avec des pompiers volontaires, on a fait des tests. C'était bingo. Hein. Ils ont plus de PFAS que les autres dans le corps. Il y a eu une manif des pompiers à Paris, à laquelle on a participé évidemment, suite aux tests qu'on a fait. Ah. Donc ouais, bien sûr, c'est un combat. Et moi, j'en discute beaucoup avec les pompiers ici. Hein. J'ai des échanges très réguliers là-dessus. Hein. J'ai vu tous les syndicats là-dessus, hein, sur cette question. Tu vois, ils se sentent complètement concernés. Donc moi, en ayant lancé ce sujet, alors ouais, on me dit oui, mais t'es en train d'affoler les gens. Je dis En vrai, d'abord, les gens, ils finissent en entendre parler, même si Charles Fournier n'en parle pas. Il faut quand même peut-être un peu relativiser le poids que j'ai. Mais le deuxième élément, c'est, je pense que les gens, ils ont juste envie de voir. On essaye de chercher des solutions. J'ai fait un courrier à toutes les collectivités du coin, métropole, département, région, préfet. Personne ne m'a répondu pour l'instant. Il y a 3 mois, en demandant à ce qu'on mette en place un groupe de travail. Personne ne m'a répondu. C'est inacceptable. Je ne l'ai pas rendu public. Je n'ai pas joué la surenchère. J'étais sincèrement à dire, mais cherchons chacun dans nos champs ce qu'on peut faire. Réponse, pas de réponse. Les gens, ils ont besoin de sentir qu'on se préoccupe de ça. Pas qu'on leur fasse croire qu'il n'y a pas de problème. Moi, je ne leur dis pas qu'il y a zéro solution. Il y a un problème avec ça. Maintenant, mettons-nous en mouvement, la recherche, la dépollution. Faisons des tests pour savoir précisément. Étudions toutes les substitutions possibles. Enfin, voilà. Mais il faut un plan, quoi. Ça, notre rôle. C'est à partir de ce que vivent les gens, élaborer avec ceux qui savent les plans. Qu'on ne me réponde pas, vraiment, je suis un peu fâché.
Je voudrais reboucler avec ce que tu disais au début. C'est vrai qu'on est matraqué de trucs très anxiogènes, propagande, etc. Et on entend beaucoup la voix des gouvernants, du pouvoir, et puis des milliardaires qui contrôlent les médias. Bon, et tout ça, et tout ça, tout ça. C'était bien que tu redises cependant que malgré tout, ce matraquage, cette propagande, notre société continue à être progressiste, enfin à évoluer. Il y a quand même eu MeToo. Enfin, je cite
mais
ça.
Mais évidemment, très bon exemple.
Je cite aussi le fait que j'ai été très agréablement frappé en 2023 de voir des personnes queer et représentantes des mouvements LGBTQIA+, faire de lance dans le mouvement social. Donc, ce qui est bien la preuve, en fait, que notre société évolue dans le bon sens. L'une des dernières fois où je t'ai tendu le micro, c'est quand il y a eu un attentat à la bombe au centre LGBTQIA+. Tu parlais de cette offensive d'extrême droite qui tape, et je me disais, ouais, Charles, il exagère un peu quand même. Un an plus tard, je dis, tiens, en fait, c'était pas complètement déconnant ce que tu racontais.
Non, et je pense même d'ailleurs que là, j'ai envie de prendre des initiatives, parce que je pense que c'est un des éléments qui peut fédérer la gauche, la lutte contre l'extrême droite, la gauche dans toute sa diversité, parce que moi j'en ai un peu marre qu'on cherche tout le temps les sujets pour être fâché. Je trouve qu'il faut aussi chercher des sujets pour pas être fâché. Je me suis beaucoup engagé sur la lutte contre l'extrême droite.
Et depuis très longtemps.
Voilà, et des tours et des listes, là, quand ils viennent dans mes réunions.
C'est le groupuscule facho du coin.
Et qui viennent et qui se mettent comme ça dans des réunions que je fais pour m'intimider. Cette intimidation, elle est à l'œuvre.
Pour essayer, en tout cas.
Ouais, Némésis qui fait un. Némésis, le mouvement pseudo-féministe facho, là. Il y a une gamine du RN qui est de Tours, là, qui dit s'être fait agresser à Paris par quelqu'un d'extrême gauche. Voilà, donc elle vient me voir avec la candidate RN qui était face à moi le 8 mars. Enfin, le lendemain, le 9 mars, à l'hôtel de ville. C'est la gamine du RN qui me parle, la candidate, qui me dit « Oui, ma militante s'est fait agresser, vous ne dites rien. » Et tout. Je dis « Bah, si elle s'est fait agresser, vous avez été porter plainte. » Ce que j'aurais dit à n'importe quelle femme. « Mais nous, personne ne veut nous recevoir. Vous devez relayer notre communiqué de presse. » Alors, je dis ça, je vous arrête tout de suite. Je vais pas relayer votre... Si elle s'est fait agresser, elle porte plainte. Maintenant, je vais vous dire, vous êtes le parti le plus condamné. Vous trouvez plus important de vous mobiliser parce qu'une de vos militantes s'est fait agresser. Mais je vous ai jamais entendu sur les agressions que vivent des femmes d'une façon générale. Voilà, et le ton monte et tout. Et bon, elle se barre. Heureusement, il y avait des tas de gens avec moi, et notamment le planning familial qui a fait un témoignage écrit. Et 4 jours plus tard, il y a une vidéo de cette jeune fille, Némésis nationale. Je me suis fait agresser, nanana, elle monte des marques dans son cou et tout. Et mon député m'a dit que c'était normal que je me fasse agresser parce que j'étais du RN. Et du coup, j'ai fait un communiqué moi derrière juste pour dire. Tout ça, évidemment, des conneries, on connaît vos méthodes par cœur. Et puis pour taper sur Némésis. Voilà. Et puis en disant, je me réserve le droit d'aller un petit peu plus loin s'il y avait nécessité. Depuis, plus rien, voilà. Ça s'est calmé. Parce que ça aurait pu monter vite. Hein. D'ordinaire, la fachosphère, ça gonfle. Les députés RN s'en mêlent. Mais même eux, ils l'ont pas fait. Ils doutaient qu'il y avait un peu en guille sous roche, quoi. Mais voilà, pour dire que ça, c'est quand même à l'œuvre. Tu vois bien que c'est d'une militante RN jusqu'à Némésis, qui est un mouvement violent par ailleurs. Hein, voilà. Et donc, tu as tout un réseau. Et là, il y a des Tours et des Listes qui cherchent à avoir un local à Tours, là. Voilà. Donc là, moi, j'ai fait des courriers publics. Voilà. Donc, je suis identifié là-dessus. Il faut fédérer plus la gauche là-dessus. Donc, je vais essayer de faire ça. Voilà.
Et voilà, les amis, c'est ici que prend fin ce nouveau reportage sur la manif du 1er mai 2025. À réécouter sur notre site, polymix-et-la-voix-off.com. Avant qu'on se retrouve très bientôt sur votre radio toujours libre préférée, ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.